Chapitre 22e. Un beau matin, M. Milaghin, le front appuyé contre la vitre de son cabinet, un bras sur l'épaule de Nastia, regardait tomber la pluie, une vraie pluie d'automne, lourde et régulière, lorsqu'il vit s'approcher une voiture de forme respectable et sérieuse, une voiture de vieille dame, traînée par deux beaux chevaux trop gras, comme les chevaux des vieilles gens qui ne sortent guère. Il allongea le cou et, aux surprises, le valet de pied de Madame Averieff, debout derrière la voiture, leva la tête, le salua et sauta à terre. « Ce n'est pas possible !» s'écria M. Milaghin, qui se crut fou. « Praskovia Petrovna, qui ne sort que pour déménager à Tsarskoe et revenir en ville, ce n'est pas... Madame Averieff est demandé si monsieur veut bien la recevoir, » dit le domestique en ouvrant la porte. « Reçois, reçois !» cria le digne homme. « Pauline Vassilievna, Nastia !» Nastia avait disparu comme dans un trou de souris. Elle eût voulu mettre tous ses gens et sa famille en haie pour faire honneur à son hôtesse. Mais l'idée lui vint qu'il ferait mieux d'aller à sa rencontre et il se précipita sur l'escalier, tout rouge, tout hors d'haleine, au moment où la vieille dame, portée sur un pliant par deux domestiques, arrivait à la dernière marche. Quel heureux hasard me procure l'honneur, balbutia M. Milaghin, encore essoufflé, lorsqu'ils furent tous les deux confortablement assis dans le salon. Ah, Paul Nikolaïtch, ce n'est pas un hasard, répondit Madame Averieff en haussant légèrement les épaules. Si vous saviez, vous allez dire que je suis folle. Eh bien, je vous donne ma parole que je me demande depuis hier soir si ce n'est pas la vérité. Où est Nastia?
Je ne sais pas. Elle était là quand nous avons vu arriver votre voiture et elle a disparu. Elle est peut-être allée faire un peu de toilette.
Soyez tranquille, vous ne la reverrez pas avant que je ne la demande moi-même.
Ah, vous croyez ?
Fit M. Milaghin indécis. Il n'y comprenait rien du tout.
À quoi bon les préambules ? Reprit Madame Averieff. Allons au fait. Je viens, au nom de mon petit-fils Serge, vous demander la main de votre fille Anastasie.
M. Milaghin, malgré sa corpulence, fit un bond formidable dont gémit son fauteuil.
« Oui, oui, » répéta Madame Averieff en hochant affirmativement la tête. « Vous avez bien entendu. Je ne suis pas folle. Serge vous demande la main d'Anastasie. »«
Voyons, » dit M. Milaghin abasourdi, « mais si ce n'est ni vous ni moi, c'est lui qui est fou. »«
Ah, pour cela, c'est autre chose, je vous l'accorde. Cependant, il paraît que c'est sérieux. »
« Sérieux ? Quel âge a-t-il ? »
« 19 ans et 4 mois. »
M. Milaghin se mit à rire de si bon cœur que Madame Averieff perdit aussi sa gravité. Quand ils eurent fini de rire,
« Il se moque de nous, » dit M. Milaghin. « Il faut lui donner les verges et le renvoyer au corps des pages. »«
On ne veut plus de lui, il a fini ses classes, » répondit Madame Averieff avec une certaine disposition à la gaieté.
« C'est sérieux, vous dis-je. »«
Quel âge a Nastia ?»«
Je n'en sais rien. 14 ans ? Non, 15 ans, révolu. »«
Je ne sais pas bien. Attendez, je vais vous dire. »«
Ce n'est pas la peine. »
interrompit Madame Averieff. « Nastia aura 16 ans la semaine prochaine. »«
Comptez, elles auraient. » »«
C'est vrai. » fit après un petit calcul M. Milaghin, de plus en plus bouleversé. « Comment le savez-vous ? »
« C'est Serge qui me l'a révélé. »«
Pas besoin de vous expliquer qu'ils sont d'accord. »«
D'accord. Oh, les scélérats. Nastia !»
Il roulait furieux vers la porte du salon. Madame Averieff le rappela.
« Écoutez donc, Paul Nikolaïtch. Ils s'aiment, ces enfants. Ce n'est pas absolument leur faute.
Vous voyez, je suis venu moi-même. »
Elle appuya légèrement sur le mot. « C'est une preuve que je ne désapprouve pas ce projet. »«
Ils sont bien jeunes, c'est vrai, mais le mariage est une si singulière loterie. »«
Ceux qui réunissent toutes les conditions de bonheur tournent quelquefois bien mal. »«
Enfin, que voulez-vous ? Ils s'aiment. »«
Marions-les, pendant que nous sommes encore là pour les surveiller et leur apprendre à vivre. »«
Mais il n'y a plus d'enfants !» s'écria piteusement le brave homme.
« On se mariera bientôt en quittant sa nourrice. » Nastia porte encore des robes courtes et vous voulez...
C'est absurde.
Oui, c'est absurde. On va lui faire des robes longues tout de suite. Et nous les marierons... quand ?
Mais je ne veux pas les marier du tout,
s'écria M. Milagin dans l'excès de son indignation. Comment ? La princesse est mariée à 20 ans avec un homme de 30 et cette petite fille veut épouser un garçonnet à peine hors de page ?
Il avait fait 2 ou 3 fois le tour de l'appartement. Sans s'en apercevoir, il éprouva le besoin de se reposer et se laissa choir dans un grand fauteuil. Ce changement apporta une modification à ses idées.
« Racontez-moi comment ce blanc-bec vous annonçait cela, » dit-il, moitié fâché, moitié rieur. « Ce devait être bien drôle. »«
Eh bien non, ce n'était pas drôle, » répondit Madame Averieff,
« et c'est pour cela que je suis venu faire auprès de vous cette démarche d'apparence saugrenue. Hier soir, vers 10 heures, Serge est venu me trouver dans ma chambre à coucher. Croyant que c'était pour me souhaiter le bonsoir, j'ai levé la main pour le bénir et lui, au lieu de s'incliner comme d'ordinaire, s'est laissé glisser à genoux devant moi. Comme je le regardais, un peu surprise, j'ai vu qu'il avait les yeux très brillants et le teint animé. Je l'ai cru malade, et je n'étais pas sans quelque inquiétude lorsqu'il me dit tout à coup « Grand-mère, vous m'avez élevé, vous avez remplacé toute la famille pour l'orphelin. Faites maintenant le bonheur de toute ma vie. En me donnant pour épouse la seule femme que je puisse jamais aimer. » Je vous avouerai, Paul Nikolaïtch, que ce discours me plongea dans la stupéfaction. J'eus un moment grand peur qu'il ne se fût laissé prendre dans quelque vilaine affaire. Vous savez, un beau garçon, tout jeune, il y a des créatures qui n'ont honte de rien. Aussi lui dis-je d'un ton sévère, « Quelle est cette épouse que vous demandez ?»« Nastia Milagin, » répondit-il.
« Oh, grand-mère, je l'aime comme un fou, elle m'aime aussi. Nous ne savons plus depuis quand, et nous serons si heureux. Grand-mère, permettez-moi de me marier, et suppliez M. Milagin de ne pas me refuser, car j'en mourrai. »
Disons ici que Madame Averieff, bien involontairement sans doute, venait de charger d'un mensonge sa conscience jusqu'alors immaculée. Son petit-fils n'avait pas une fois proféré le nom de M. Milagin, par la raison excellente que l'idée ne lui était pas venue que M. Milagin pût avoir une volonté à lui. Ce pieux mensonge ne fut pas perdu, car l'excellent homme, touché, murmura à voix basse. « C'est pourtant un bon garçon, ce Serge. Il a le respect de la famille, lui, au moins. Et qu'avez-vous répondu, Praskovia Petrovna ?»«
Je lui ai fait toutes les objections que vous avez faites vous-même, mon ami, et nombre d'autres encore. » Mais il a trouvé un argument qui m'a laissé sans force et... »
La voix de l'aïeul s'altéra sensiblement. Elle porta son mouchoir à ses lèvres et s'interrompit.
« Que vous a-t-il dit ? »
fit Milagin, inquiet.
« Voici ses propres paroles.
« Je suis très jeune pour me marier, trop jeune, je le sais. Mais je suis militaire, grand-mère. La carrière que j'ai embrassée, d'après le désir de mon honoré père et le mien propre, est de toutes celle qui convient le mieux à un Averieff. Je serais heureux de succomber comme mon grand-père sur un champ de bataille, en défendant ma patrie. Mais si je dois mourir jeune, comme mon père et mon grand-père, qu'au moins nous ayons eu, Nastia et moi, la joie d'être heureux de bonne heure, puisque après il pourrait être trop tard.
« Je vous l'avouerai, Paul Nikolaïtch, » dit Madame Averieff, qui ne retenait plus ses larmes. Je n'ai rien trouvé à lui répondre. J'ai été mariée peu d'années, mon bonheur était court. J'espère bien que Dieu donnera à l'enfant la longue vie qu'il a refusée à mon époux et à mon fils. Mais s'il devait en être autrement, je ne me pardonnerai pas d'avoir mis des obstacles aux joies que Serge peut avoir en ce monde. »
M. Milagin, très ému, trouva aussitôt une consolation.
« Bah, dit-il, on ne se bat plus guère. Et puis tout le monde ne meurt pas sur le champ de bataille. Enfin, il a raison malgré cela, c'est vrai. Il n'est jamais trop tôt pour être heureux. Mais Nastia, cette petite fille, qui n'est bonne à rien dans un ménage.
Fiez-vous à elle pour tout apprendre en un tour de main.
Ah, la fine mouche ! S'écria Madame Averieff en souriant. M'a-t-elle circonvenue ?
C'est qu'ils ont préparé cela de longue main. Je la voyais si prévenante, si tendre, je me disais, l'excellent petit cœur, la rusée, elle faisait le siège de la vieille grand-mère. Où est-elle qu'on lui tire un peu les oreilles ?
Monsieur Milaguine se dirigea vers la porte et appela d'une voix éclatante
« Anastasie Pavlovna !»
Puis il revint s'asseoir. « Anastasie Pavlovna !» Puis il revint s'asseoir. Anastasie Pavlovna, soudainement promue au rang de demoiselle à marier, entra timidement, à petits pas, les yeux baissés, comme une jeune coupable qui sent planer sur elle la miséricorde prochaine et qui s'efforce de la mériter.
« La petite sorcière !» murmura Madame Averieff à l'oreille du père, pendant que la jeune fille traversait le grand salon sous leur regard. « Elle a fait rallonger sa robe. »
En effet, la jupe de la délinquante touchait le parquet. Elle s'approcha de Madame Averieff et lui baisa la main d'un air soumis. Puis, pleine de componction, elle attendit la mercuriale.
« Comment, mademoiselle ?» lui dit M. Milaguin d'une voix tonnante. « Vous vous permettez, sans l'assentiment de votre père, de faire des projets de mariage ? Au lieu de vous occuper de vos études comme il convient à votre âge, vous songez à vous marier, à quitter la maison paternelle ?»
La voix manqua à M. Milaguin. Il fondit en larmes et attira sa fille sur sa poitrine en balbutiant.
« Tu veux me quitter ? Tu veux que je meure tout seul et abandonné dans ma triste vieillesse ?»«
Mais non, papa !»
s'écria Nastia en sanglotant.
« Nous ne voulons pas du tout que vous mouriez. Vous viendrez demeurer avec nous. Nous avons arrangé tout cela, nous deux, Serge. »
Le sérieux de Madame Averieff n'y tint plus, et riant de tout son cœur, elle embrassa la jeune fille en lui disant
« Allons, gamine, c'est convenu. Mais tenez-vous bien jusqu'à la noce, où, sans cela, nous vous mettrons, vous deux, Serge, chacun dans un coin, le dos tourné, pour vous apprendre à vivre. »
C'est ainsi que Nastia quitta les robes courtes. Après le départ de Madame Averieff, la jeune fiancée n'eut rien de plus pressé que d'aller annoncer la grande nouvelle à sa sœur. Marthe éprouva une impression singulière et mêlée de tristesse à penser que sa sœur, presque sa fille, avait pu aimer sans le lui dire, sans venir verser toutes ses craintes et toutes ses espérances dans le cœur de celle qui avait remplacé sa mère. Elle le lui dit sans colère, mais non sans tristesse. Nastia, confuse, l'écoutait, l'oreille basse, puis, avec la soudaineté de sa nature impétueuse,
« Écoute, Marthe, lui dit-elle, c'est un peu ta faute. Te souviens-tu du jour où je t'ai dit que j'aurais mieux aimé Michel Averieff que le prince pour beau-frère ?»«
Oui, dit Marthe en détournant la tête.
Tu m'as demandé pourquoi. Je m'en souviens. Je t'ai dit, parce que c'est un Averieff. Tu n'as pas répondu. J'étais prête à tout te dire ce jour-là, mais j'ai cru que pour quelque raison tu avais pris les Averieff en grippe, et je n'ai plus envie de t'en reparler. Je n'ai jamais pris les Averieff en grippe, dit Marthe d'une voix faible. J'ai toujours été très bien avec Madame Averieff.
Oui, mais tu détestes Michel.
Oh, ne t'en défends pas, c'est facile à voir.
Repartit Nastia, avec l'aplomb que donne la certitude du mariage prochain. Et même, cela m'a fait beaucoup de chagrin, car je l'aime. D'abord, c'est le cousin de Serge, et puis il est charmant.
Je te promets de ne pas détester Serge, dit Marthe en s'efforçant de sourire. Tu sais que je l'aime de tout mon cœur. Parle-moi de lui.
La paix fut bientôt faite entre les deux sœurs.